Et bonjour, bonjour, Yves au micro-micro pour une nouvelle émission de 24 notes secondes qui ne dérogera pas à sa tradition et qui par conséquent vous rappellera ou vous apprendra que 24 notes secondes est une émission consacrée à la musique de film, à cet art aussi particulier qui consiste à illustrer de manière sonore ou musicale les petites images qui bougent depuis un sacré bout de temps déjà. Et puis ça, je ne le fais pas à chaque fois, mais je vous rappellerai que notre générique est bien évidemment une musique de film, vous l'auriez compris, en l'espèce celle d'un petit bijou signé Blake Edwards, tourné en 1962. Audrey Hepburn et George Pippen sont dans les rôles principaux. Le film, il s'appelle Diamant sur canapé en français. On ne saura jamais pourquoi. Breakfast at Tiffany's in English. Et la musique, elle est signée du grand, du regretté Henry. Tu nous manques Henry Mancini, Moon River. Ce jour, dans 24 notes secondes, eh bien, nous allons rester de ce côté-ci de l'Atlantique, puisque nous allons évoquer la carrière d'un acteur, c'est mieux, américain, né le 30 janvier 1931, quelque part en Californie. Gene Hackman de son nom. Gene Hackman de son nom qui, bien connu en Californie, passe son enfance dans l'Illinois avant que les problèmes familiaux sur lesquels je ne m'étendrai pas, en plus ma petite fiche n'en dit rien, le contraignent ou en tout cas l'incitent à l'âge de 16 ans, c'est-à-dire en 1947 si je calcule bien, à s'engager dans la marine. Il sert ainsi en Chine, au Japon, à Hawaï et à sa libération, comme on a coutume d'appeler ça, eh bien il entre à la radio comme assistant, puis retourne en Californie, où il commence à prendre des cours d'art dramatique. Il faut croire qu'il avait la fibre. On le voit dans des théâtres de province, on le voit à la télévision, par exemple, dans la fameuse série des Envahisseurs. Alors, je ne saurais vous dire dans quel épisode. J'imagine qu'on trouve facilement cela sur Internet. Et ensuite, il obtient son premier grand rôle au théâtre en 1963, dans une pièce d'Irwin Shaw, qui est un bide total, mais où lui tire son épingle du jeu. Ma foi, des fois, il y a les échecs des autres et les réussites personnelles, ce qui lui permet de tourner en 1964, remarqué par le réalisateur Robert Rossen, dont ce sera le dernier film, ce qui lui permet de tourner donc son premier film intitulé L'Élite. Eh bien, une fois n'est pas coutume, c'est bien rare, on va écouter un extrait de la bande originale de ce premier film tourné par Gene Hackman, évidemment pas encore en vedette, avec un tout petit rôle. Les vedettes, c'était Warren Beatty, Gene Seberg et Peter Fonda, excusez du peu. La musique, elle est du grand Kenyon Hopkins, et on écoute L'Élite dans 24 notes secondes. We'll be right back. Un extrait allègre, mais un petit peu jazzy quand même, signé du grand Kenyon Hopkins, de la bande originale de L'Élite, un film de Robert Rossen, tourné en 1964, le dernier film de Robert Rossen, qui a été un grand scénariste et un réalisateur un peu moins chanceux. Il n'aura tourné que 10 films, dans lesquels on peut retenir quand même L'Arnaqueur, avec Paul Newman, tourné en 1961, mais le grand drame de la vie de Robert Rossen, comme de bien d'autres, hélas, c'est d'avoir été victime des persécutions du sénateur McCarthy, et d'avoir été inscrit sur la liste noire en tant qu'ancien membre du Parti communiste. Quant au film, eh bien, c'est une sombre histoire où Warren Beatty travaille dans un hôpital psychiatrique, tombe amoureux d'une patiente incarnée par Gene Seberg et finit par devenir lui-même patient de l'hôpital psychiatrique. Le film a rencontré très très peu de succès. Là encore, c'était pas la grande chance de Gene Hackman, mais là encore, ça a permis à Gene Hackman, 2 ans plus tard, puisque Warren Beatty l'avait remarqué, eh bien, de tenir un rôle important dans le fameux Bonnie and Clyde, tourné, je reprends ma petite fiche, j'ai perdu la date, en 1967, donc effectivement 2-3 ans plus tard. Bonnie and Clyde, bien sûr, Warren Beatty, Faye Dunaway, un film mythique, un grand film des années 70, une cristallisation en fait des années 60-70 avec une violence qui aujourd'hui nous paraîtrait bien banale, mais qui à l'époque avait été reçue avec beaucoup d'agressivité elle-même, et donc un rôle relativement important pour Gene Hackman, qui enchaîne, il faut bien le dire, les rôles. En 1969, on le voit dans 4 films, et pas que des films peu intéressants, on le voit notamment dans un film que j'aime beaucoup, Les parachutistes arrivent, de John Frankenheimer, qui n'est pas du tout un film de guerre, mais un film sur des parachutistes qui se produisent comme en spectacle. Il y a Burt Lancaster dans les rôles principaux. On le voit dans La descente infernale de Michael Ritchie, qui met en vedette, sauf erreur de ma part, Robert Redford, lui aussi comme Warren Beatty dans ses grandes années. Et Les naufragés de l'espace, un film de science-fiction de John Sturges. Ensuite, eh bien, il faut en venir à ce qui va être la révélation pour Gene Hackman. En 1971, il va interpréter un rôle qui va le rendre célèbre et qui, du coup, va le coller un peu dans des rôles comparables. Le film, il s'appelle French Connection, le réalisateur, il s'appelle William Friedkin, et la musique, eh bien, on va commencer par ça, et après, on débrief dans 24 notes secondes. Voilà un bien court extrait d'une bande originale pourtant magistrale, signée Don Ellis. Alors Don Ellis, on a peu entendu parler de lui avant ni après French Connection, mais avec French Connection, il aura signé une pièce maîtresse, et c'est aussi une pièce maîtresse à la fois pour le réalisateur William Friedkin et surtout pour Gene Hackman, qui tenait le rôle principal d'un film qui était non pas un documentaire, mais qui se voulait quand même beaucoup plus proche de la réalité de la traque des marchands de drogue, des trafiquants de drogue, que bien d'autres films comparables. C'était d'ailleurs l'adaptation d'un reportage réel signé d'un certain Robin Moore, relatant l'enquête de 2 inspecteurs de la brigade des stupéfiants à New York, remontant un réseau donc de trafiquants de drogue auquel se trouvait mêlé un nombre important de citoyens américains mais aussi français, d'où le titre du film French Connection. Alors d'ailleurs, ça nous valait de voir ce cher Marcel Bozoufi dans un rôle vraiment, vraiment méchant. Et Fernand Doré, qui est aussi français que moi, je suis lituanien, mais bon, ça n'était pas grave, qui jouait le grand chef, qui à la fin, je spoil, s'échappait, puisqu'il fallait bien prévoir une suite pour un film qui eut un succès monumental. Il faut dire que dans le rôle de Jimmy Doyle, alias Popeye, ténue s'il en est, eh bien, Gene Hackman était absolument époustouflant, et on se souvient aussi d'une course-poursuite autour du métro de New York qui reste dans les annales. Il y a comme ça quelques course-poursuites fameuses dans le cinéma américain, notamment celle de Bullitt avec Steve McQueen, mais ma foi, celle que menaient Gene Hackman et ses acolytes dans le métro, ou plutôt autour du métro de New York, eh bien elle reste dans les mémoires. Et William Friedkin était un réalisateur, hélas disparu, mais entre autres, il a réalisé aussi L'Exorciste, autre gros gros succès du cinéma américain, un réalisateur dont les mémoires sont un régal, je vous les conseille, et qui gagnerait à être un peu réhabilité, en tout cas pour Gene Hackman. Eh bien, French Connection fit l'effet d'un booster, on va appeler ça comme ça, puisque à partir de là, eh bien, il devient une grande vedette, et on vit forcément, évidemment, un French Connection 2, en 1975, avec John Frankenheimer dans le rôle, non pas dans le rôle principal, mais dans le rôle du réalisateur, à nouveau Gene Hackman dans le rôle principal, c'est ça que je voulais dire, et sauf erreur de ma part, ce 2 se passait, ce qui était tout à fait normal, à Marseille, où effectivement la drogue, ça circule pas mal encore aujourd'hui, comme quoi, 50 ans plus tard, hélas, ce sont les mêmes problèmes qui sont toujours là. En tout cas, pour Gene Hackman, eh bien, c'était le début d'une période relativement faste, mais on le vit dans des films, alors à la fois dans des films grand public comme L'Aventure du Poséidon, un film catastrophe de Ronald Nim tourné en 1972, et dans des films beaucoup plus convaincants et beaucoup plus intéressants comme L'Épouvantail de Jerry Schatzberg en 1973, Conversation secrète, un très grand Coppola paranoïaque en 1974, et La Fugue d'Arthur Penn en 1975, un film un peu débridé, mais qui reste parmi la liste des films cultes du cinéma américain des années 70. Par contre, on va écouter un extrait musical qui, lui, n'a rien à voir ni avec le film catastrophe, quoique, ni avec le film culte, quoique, on va entendre un extrait de la bande originale de Superman, un film de Richard Donner, tourné en 1978, avec Christopher Reeve dans le rôle principal et Gene Hackman dans le rôle de Lex Luthor, pour ceux qui connaissent bien l'histoire de Superman. La musique, elle est signée John Williams, j'ai déjà été assez bavard, on débriefera après, et on va écouter non pas le fameux générique du film, mais La Marche des Vilains, justement en hommage à Gene Hackman dans 24 notes secondes. Thank you. Le style unique entre tous du grand John Williams, toujours parmi nous, incroyable, pour un extrait de la bande originale de Superman, un film de Richard Donner tourné en 1978, alors qu'il fut à la fois un très très gros succès, un très très gros film. Il y avait Marlon Brando dans un petit rôle, mais fort lucratif pour lui. Il y avait Margot Kidder dans le rôle de Lois Lane, l'amoureux de Superman, ai-je besoin de vous le rappeler? Et donc Gene Hackman qui faisait Lex Luthor, le méchant tout à fait goûteux, mais aussi tout à fait second degré. Ça, c'est un truc qu'on a beaucoup perdu avec les grosses productions de maintenant qui se prennent très, très au sérieux, alors qu'elles sont de moins en moins à prendre au sérieux. Eh bien, à l'époque, on savait rire, et dans les années 80, ben, disons que le Superman de Christopher Reeves, il était très amusant, et alors le Lex Luthor de Gene Hackman, il était carrément, mais volontairement caricatural. En tout cas, c'est un rôle, comment dire, relativement lucratif, puisque évidemment, on vit Gene Hackman dans Superman 2 et même dans Superman 4. Alors, je ne sais pas pourquoi on ne le vit pas dans Superman 3. Consultez vos propres petites fiches. Ça n'est pas si important, de même que le film ne l'était pas, en tout cas d'un point de vue, je dirais, esthétique. Et il faut bien reconnaître que la filmographie de Gene Hackman, après le triomphe de French Connection, qui devait pourtant lui laisser les mains libres pour choisir ses rôles, eh bien, à part les films cités avant d'écouter cet extrait, eh bien, il n'y a pas beaucoup de titres à retenir, mais il y en a au moins un, et on va écouter un très large extrait de sa bande originale. Ça s'appelle Under Fire, un film de Roger Spottiswoode, tourné en 1983. Aux côtés de Gene Hackman, il y a Nick Nolte, Johanna Cassidy, Ed Harris et Jean-Louis Trintignant, mais oui, encore un Français. L'histoire, le film se passe au Nicaragua, quelque part en 1979, au moment où le pays est au bord de la Révolution. Et aussi étonnant que cela puisse paraître, le film de Roger Spottiswoode, il est plutôt progressiste et clairement du côté des révolutionnaires. On conviendra que c'était rarement le cas des gouvernements américains à l'égard de l'Amérique centrale et latine de l'époque. D'ailleurs, toujours pas. Là encore, rien ne change. Mais en tout cas, le film, eh bien, c'est un grand film politique, pardonnez-moi, avec aussi des interprètes charismatiques, Nick Nolte, Johanna Cassidy et des autres. Et puis, il y a la musique du grand Jerry Goldsmith, dont on va écouter un extrait. Alors, au puriste, je préciserai que ce n'est pas vraiment un extrait de la bande originale. On ne l'entend pas dans le film. C'est l'occasion de mettre en valeur le complice de Jerry Goldsmith pour l'occasion, le grand Pat Metheny, guitariste. Et on écoute donc un large extrait de cette bande originale, Under Fire, dans mes 4 notes secondes. Thank you. Je vous avais dit que ce serait un grand moment, l'époustouflante partition de Jerry Goldsmith pour Under Fire avec le grand Pat Metheny à la guitare, un film de Roger Spottiswoode tourné en 1983 avec Gene Hackman, notre vedette du jour, dans le rôle principal, en tout cas dans un des rôles principaux. Alors ensuite, on pourrait évoquer le reste de la carrière de Gene Hackman qui s'achèvera en 2004, mais hélas, il faut conclure ou presque cette émission par un fait divers des plus sordides, puisqu'en fait, la mort de Gene Hackman fut un fait divers des plus sordides. En février 2025, le 26 février 2025 exactement, on trouva les corps de Gene Hackman et de son épouse Betsy Arakawa, décédés dans leur maison de Santa Fe, quelque part au Nouveau-Mexique. Et il fallut plusieurs jours pour élucider cette mort mystérieuse qui, en fait, était parfaitement naturelle, puisque Betsy Arakawa était décédée la première, sans doute à cause d'une infection respiratoire due à des rongeurs. Et comme les deux, le couple vivait très retiré, sans visite, eh bien, hélas, Gene Hackman, qui était atteint d'une forme très avancée de la maladie d'Alzheimer, erra sans doute pendant près d'une semaine dans la maison désormais vide, avant de mourir lui-même sans sans doute s'être rendu compte d'une part que sa femme était morte, d'autre part que lui-même était en train de mourir. Ma foi, il y a des fins plus glorieuses et surtout moins tristes, car il est quand même difficile d'imaginer qu'un acteur de la stature de Gene Hackman peut rester ainsi pendant 15 jours sans que personne ne se soucie de son destin. C'est bien ce qui pourtant était arrivé. On va pas se quitter évidemment sur cette note triste. J'ai oublié tout à l'heure de vous préciser que Gene Hackman avait obtenu l'Oscar du meilleur acteur pour son rôle dans French Connection, qui était plus que mérité, et il l'obtint une seconde fois en 1992 dans un film de Clint Eastwood, un western intitulé Impitoyable, dans lequel il était aux côtés, Gene Hackman, de Clint Eastwood, de Morgan Freeman, de Richard Harris et de quelques autres. On va se quitter sur ça, un extrait donc de la bande originale d'Impitoyable. La musique, elle est de Lenny Inhouse, mais le thème, il est du grand Clint lui-même dans 24 notes secondes. Sur les violons, 24 secondes, c'est fini pour aujourd'hui. Au revoir, à bientôt, see you, bye bye.